Je l'ai indiqué d'une façon très incomplète en disant que cette expérience de Dieu est atteinte par nous lorsqu'elle arrive. Un instant, excusez-moi. Que avant que nous ayons cette expérience de Dieu, nous pouvons être orientés vers Dieu par quelque chose de vu ou de perçu autour de nous. C'est le rôle des saints et c'est le rôle de la communauté chrétienne. Lorsque on m'a demandé dernièrement qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, et j'ai répondu, un chrétien, c'est quelqu'un qui, de qui ceux qui le rencontrent pourraient dire « j'ai vu le Christ ». Ou bien, qui pourrait, si cette expérience, cette perception n'est pas tellement intense, quelqu'un dont on dirait « il y a quelque chose en cette personne que je n'ai jamais rencontré ailleurs ». Et quand je, quand je parle de cette personne, je pourrais parler dans les mêmes termes de la communauté chrétienne. Notre rôle, c'est d'être personnellement et collectivement une vision des gens comme il n'y en a pas. Des gens qui possèdent une dimension que personne d'autre ne possède et qui permettent de se faire à quelqu'un de dire ce qu'il dit est croyable parce que je vois en lui quelque chose qui me permet d'y croire. Il ne s'agit pas d'une crédulité. Il s'agit d'une bonne raison de croire que s'il le dit, étant ce qu'il est, c'est que je peux suivre cette route et chercher moi-même. Et cela nous donne une très grande responsabilité. Le père Cyril en a parlé hier. Nous sommes immensément responsables de ce point de vue. Que les gens puissent nous rencontrer et ne jamais se demander quoi que ce soit à notre sujet est terrible. Le fait que l'on peut rencontrer des millions de chrétiens et ne jamais se douter qu'ils le sont. Il y a eu un interview en Angleterre et l'une des questions posées était demandez-vous si vous étiez mis en prison, arrêté sous peine de mort au cas où vous seriez chrétien s'il y aurait assez de raisons pour vous exécuter. Eh bien, la réponse de tout le monde était non. Parce qu'à me voir, personne ne s'en douterait. Personne ne dirait il faut le tuer parce qu'il est un disciple du Christ. Tandis que tout le monde l'aurait dit, de saint Paul, de saint Pierre et de tous les des apôtres, de milliers de saints qui nous ont précédés. On ne pouvait que les tuer parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se débarrasser de ce témoignage. À ceci près qu'une fois mort, leur témoignage était encore plus éclatant d'une façon différente. Donc c'est très important de ne pas chercher une expérience extatique, une expérience transcendante, mais de commencer sur le plan de la foi à nous poser des questions auxquelles nous pouvons déjà répondre. Un silence qui m'est familier. Il y a quelques années, j'ai prêché dans une église anglicane d'université. D'avant mon sermon, le recteur a annoncé un hymne, prêtez l'oreille, une voix mélodieuse vous parle. Et je me suis dit, bon, après le sermon, il a annoncé hymne numéro 308 et n'a pas annoncé les premières paroles. Alors j'ai regardé, il avait choisi comme hymne après mon sermon « Réveillez-vous, dormeurs ».
foi est inscrite au cœur même de cette affinité. Si vous pouvez quelques mots de plus, c'est un petit geste.
J'ai dit que le mystère de la croix est inscrit au cœur du mystère de la Trinité. Est-ce que je pourrais dire quelques mots à ce sujet ? Je voudrais dire quelques mots à ce sujet. Le père Cyril a touché à ce thème lorsqu'il nous a dit qu'un Dieu qui serait un 1 arithmétique, une monade, ne pourrait pas être un Dieu d'amour. Il s'est exprimé d'une façon assez vigoureuse à ce sujet. Et je voudrais vous référer de ce point de vue de nouveau à Saint Grégoire de Nazianze, qui nous dit que être amour, être trinité, c'est la même chose. Et il explique, peut-être d'une façon moins étendue que je le ferai en ce moment. Il dit qu'un Dieu qui serait un 1 arithmétique, une monade, ne pourrait pas être amour. Il pourrait simplement s'aimer lui-même. Et, pour faire un retour à l'Antiquité, il serait comme Narcisse. Il regarderait sa propre réflexion et la trouverait belle. Et la seule chose qu'il pourrait en faire, comme Narcisse, c'est d'en mourir. Plus loin, il nous explique qu'un amour qui serait une dyade, un couple, est une relation passionnée, intense, dans le sens du eros, non pas sur le plan du sexe, mais de l'intensité de l'amour, mais une relation fragile. Pensez aux relations humaines telles qu'elles sont décrites dans tant de romans ou tant de pièces. C'est ou bien une tragédie ou bien une comédie. Deux personnes s'adorent. Ils se regardent dans les yeux, ils se tiennent les mains. Le monde n'existe plus autour d'eux. Il n'y a plus qu'elle, il n'y a plus que lui. Et puis, un troisième apparaît. Et cette relation se trouve brisée. Elle se trouve reconstituée d'une façon nouvelle. A et B ne se regardent plus dans les yeux. Ils ne se tiennent plus les mains. A ne regarde plus que C. Et B... est tout seul et regarde l'un et l'autre. Ce peut être une comédie, ce peut être une tragédie. C'est bien qu'une dyade, de ce point de vue, est une relation intense mais faible. Parce que dans une dyade, il n'y a pas l'acceptation du troisième. Ce n'est que l'acceptation du troisième qui peut faire que la relation ne peut pas être brisée. Celle que je viens de décrire est une relation triangulaire. A et B étaient une dyade, le troisième est venu, et un triangle s'est formé, comique ou tragique. Mais pensez à la relation non plus triangulaire, mais trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Chacune des personnes de la Trinité aime l'autre d'une façon absolue. Chaque personne de la Trinité donne le tout, reçoit le tout. Mais pour donner le tout à chaque instant, il faut pouvoir donner le tout à une personne. Que devient l'autre ? Eh bien, l'autre personne accepte dans un acte d'amour, non pas dans une tragédie de rejet, mais dans un acte d'amour choisi de son propre choix, de sa propre volonté, de n'être pas, de se faire absent, de se sacrifier jusqu'au non-être radical, pour que les deux puissent être ensemble d'une façon parfaite. Dans l'imagerie que nous avons de la Trinité, évidemment, nous parlons en termes successifs. Mais si nous pensons au terme grec de perichoresis, qui veut dire une danse, une ronde, dont certains pères ont décrit la vie trinitaire, chaque personne se trouve simultanément et successivement à la place de l'autre. Si bien qu'il y a une simultanéité hors du temps dans le fait de tout donner, de tout recevoir et de renoncer à tout. Et dans cette relation, le renoncement à tout, accepter et activé par chacune des personnes, c'est la mort, l'anéantissement, le méon dont les pères grecs parlent, non seulement un amenuisement de l'être ou un rejet temporaire, mais simplement un non-être radical. Je ne suis plus, je veux n'être plus, pour que les deux autres soient d'une façon absolue. Et de ce fait, nous trouvons qu'il y a dans dans l'image de la Trinité la présence de cet anéantissement qui se trouvera exprimé et projeté dans l'histoire par l'incarnation, la kénose, la vie et la mort du Christ. Mais en même temps, celui qui renonce est aimé et retrouvé par les autres. Et il y a une phrase, je crois, de Gabriel Marcel, qui dit « Dire à quelqu'un « je t'aime », c'est lui dire « tu ne mourras jamais ». Dans cette vie trinitaire, il y a la mort qui est transcendée par un rappel à la vie, un retour à la vie. Et nous trouvons une phrase analogue dans saint Paul qui nous dit que le Père a ressuscité le Fils. Il est impossible de se ressusciter à moins que votre mort ne soit fictive. La mort, l'anéantissement doit être totalement réel et vous laisser impuissant à revenir à la vie. C'est l'amour du Père, l'acte d'amour du Saint-Esprit qui peut ramener le Fils de Dieu devenu le Fils de l'homme à la vie du temps et à la gloire du Père. Si bien que nous avons là une relation trinitaire où il y a où la tierce personne n'est pas celui qui fait irruption dans une relation binaire pour la briser, mais qui accepte l'anéantissement pour être retrouvée et ramenée à la plénitude. Elle commence par le sacrifice total et elle culmine dans la victoire, dans le triomphe de l'amour donné et reçu. Et de ce point de vue, je crois que nous pouvons parler de l'agneau de Dieu au cœur du mystère trinitaire. Et nous pouvons nous comprendre comment il peut se faire que le Fils de Dieu devienne le Fils de l'homme du fait de la chute humaine, sans que cette chute humaine n'ait introduit à l'intérieur du mystère de Dieu quelque chose qui n'y était pas, c'est-à-dire un événement inconcevable. J'espère que vous avez compris le quart de ce que j'ai dit. Est-ce que vous voulez... Non, non, je ne veux pas bien. Laissez-moi répondre à une question, parce que j'oublierai la seconde et je vous la redemanderai dans un instant. Je crois que la terminologie de verbe est une théologie scripturaire, une terminologie scripturaire que nous pourrions parfaitement utiliser. Il y a un passage dans les œuvres d'un chartreux qui est intéressant de ce point de vue, où il nous dit dire que le Christ est le Verbe de Dieu, c'est par implication dire que Dieu est le silence sans fond des profondeurs duquel uniquement peut jaillir un verbe, une parole qui est totalement adéquate à ce silence. Et je crois que de ce point de vue, nous pourrions employer le terme de verbe et d'esprit. Lorsque nous parlons de fils, nous ajoutons quelque chose. Je crois qu'au point de vue, disons, de l'homme moderne, il y a ce problème du fils et du père, pourquoi pas la fille, pourquoi pas la mère. Et je crois qu'il y a un élément intéressant, même du point de vue des psychanalystes, de ce point-là, parce que le père, en psychanalyse et en pratique humaine, c'est celui qui met en question le fils. C'est celui que le fils affronte. C'est celui qui pose une exigence et exige de son fils, idéalement, la grandeur et la pleine stature. Et de ce point de vue, la terminologie père-fils a cet avantage que Dieu, le Père, est celui qui exige non seulement du Fils, de notre Seigneur Jésus-Christ, mais de nous, la pleine stature que nous pouvons acquérir dans le Fils unique. Mais de notre côté, sur un plan de compréhension, je crois que nous pourrions employer le terme de verbe, de silence, et il y a une difficulté, évidemment, c'est la déification, la théosis. Mais pensez à Al-Halaj. Il y a dans la tradition musulmane quelques indications d'une expérience spirituelle, mystique, où un homme a pu dire « Je suis Dieu », sans pour cela prétendre être substantiellement Dieu. Maintenant, deuxième question, si vous voulez. Il y a une trentaine d'années, une femme intelligente et cultivée qui se disait incroyante est venue me voir. Et la première question qu'elle m'a posée était « Qu'est-ce que Dieu ?» Et je lui ai répondu « Notre Père ». Elle s'est dressée devant moi et elle m'a dit « Non, pas cela !» Et ensuite j'ai découvert qu'elle était une enfant martyre, que pour elle l'image du Père, c'était l'horreur de toute une enfance de violence, de brutalité physique, de cruauté mentale. Si bien que, dans le monde où nous vivons, le terme de père est un terme difficile. Nous avons aussi une génération de jeunes et de moins jeunes qui n'ont jamais eu de père, ou bien parce qu'il a été tué à la guerre, ou bien parce que dans les nouvelles relations qui sont créées depuis la guerre, la paternité est devenue simplement génitale, et il n'est rien resté de paternité. Des gens qui ont procréé des enfants, mais n'ont jamais été leur père. C'est bien que nous avons un vrai problème. Et avant de dire aux gens, non, il faut que vous reveniez à cette terminologie, il faudrait au moins, en milieu chrétien, que nous puissions faire la démonstration de ce qu'est le père, qui n'est pas l'autorité, qui n'est pas la puissance, qui n'est pas la brutalité, mais qu'il est l'amour le plus parfait, le plus compréhensif. Et seulement alors, on pourrait reparler du père. Nous sommes dans une période où certaines formulations créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Remplacer le terme de père par mère ou par le terme de parent n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce que la tentative ne s'adresse pas au problème. Elle échappe au problème. Elle tourne le problème. Je trouve une autre expression. Il y a évidemment un passage dans l'Écriture où le Seigneur nous dit qu'il est notre mère. Mais je crois qu'il est toujours dangereux de prendre des passages et d'en faire une théologie. J'ai lu dernièrement dans un livre sur le problème de la prêtrise des femmes que l'homme serait, et j'insiste sur le conditionnel, serait l'image du Fils et que la femme serait l'image de l'Esprit Saint parce que roi est du féminin. Mais c'est un désastre de faire de la théologie sur de la sémantique parce que le hasard peut faire qu'un mot dans trois langues différentes à trois genres différents et que nous aurions dans trois pays différents, trois systèmes linguistiques différents, trois approches théologiques incompatibles. Je crois que c'est la totalité, l'ensemble qui doit être envisagé. Pour fourrer ma tête dans la guillotine, je dirais en plus que nous avons, nous orthodoxes, nous sommes totalement incapables de discuter en ce moment le problème de la femme dans l'Église et de la prêtrise féminine. C'est un problème qui n'est pas né à l'intérieur de l'orthodoxie, que ce soit un bien ou que ce soit un mal, c'est une autre question, et nous n'avons rien à dire. Et quand la seule réponse que nous savions donner, c'est que ça n'a jamais été existé, que ça ne peut donc pas exister, et c'est une réponse absolument lamentable. Je crois que si les orthodoxes ont quelque chose à trouver, et je suis absolument certain que ce n'est pas trouvé, il faut que nous nous posions la question sur y a-t-il une féminité et une masculinité essentielles, ontologiques, à la façon dont nous parlons en Dieu de la nature et des personnes qui ne se mélangent pas, qui ne sont pas des notions confuses. Je crois qu'il y a tout un travail théologique à faire, mais que si nous étions honnêtes, ce que nous ne sommes pas, nous dirions, nous n'avons rien à répondre à ça parce que nous n'avons pas commencé à penser. Donc il y a toute une littérature patristique qui nous indique que l'homme, l'être humain, disons en termes allemands, Mensch, l'être humain a été créé en une personne avec les deux potentialités, et que ce n'est qu'après, à un certain moment, quand ces deux potentialités se sont développées jusqu'au point d'entrer en conflit et d'être incompatibles simultanément, que Dieu a séparé dans cet être humain primordial, dans ce que les pères appellent l'androgyne, l'homme de la femme, Adam d'Ève. Et ce passage de la fin du second chapitre de la Genèse, où Adam se trouve face à face avec Ève et dit, elle est os de mes os, elle est chair de ma chair, est un moment où il se reconnaît parce que c'était lui, où elle se reconnaît parce que c'était elle. Et un moment qui est tragique, parce que c'est un moment où l'un comme l'autre peuvent ne voir dans l'autre qu'une réflexion de soi et ne pas reconnaître l'altérité absolue qui vient d'être créée entre les deux.